Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez votre quotidienne d'actualité locale et associative Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Rengoat et Pierre-Olivier Gaumin afin de parler de leur film documentaire Des goûts de lutte. Mais avant, je vous propose d'écouter une chronique d'Alice qui vous invite à vous rendre à une exposition.
Salut! La dernière fois, j'avais décidé de vous parler du musée de Picardie qui s'inscrit dans la célébration des 150 ans de l'impressionnisme en présentant au public le tableau Sur la plage d'Édouard Manet, peint en 1873 à Berck-sur-Mer. Aujourd'hui, je souhaite vous donner envie d'aller découvrir l'exposition Peindre la nature, paysage impressionniste du musée d'Orsay, qui se trouve au musée Muba, Eugène Leroy, à Tourcoing, jusqu'au 24 juin. Cela donne l'opportunité à la ville de Tourcoing de pouvoir renouer avec un partenariat d'envergure internationale, ce qui est particulièrement intéressant. Et j'ai pu m'y rendre justement à cette exposition la semaine dernière et je voulais vous donner envie de pouvoir y aller. Et le musée d'Orsay, il a prêté donc de manière exceptionnelle, dans le cadre des 150 ans de l'impressionnisme, près de 30 musées des tableaux. Et le MUBA, à Tourcoing, du coup, il dispose du plus grand nombre de tableaux, avec 58 chefs-d'œuvre qui sont présentés au public. On peut retrouver notamment ceux de Monet, de Sisley, de Renoir, de Pissarro, ou encore de Cézanne et de Caillebotte. Cette exposition, elle permet de répondre à de nombreuses interrogations, comme les suivantes. Comment le paysage impressionniste est-il né, véritablement, et comment ces peintures traduisent-elles les différentes mutations du rapport des hommes et des femmes à leur environnement et à ce qui peut les entourer, justement. Ces questions, elles sont abordées tout au cours d'un parcours en fait chronologique qui va donc des prémices du début du paysage impressionniste avec le développement de la peinture réaliste et du plein air en Normandie et à Fontainebleau justement jusqu'à son épanouissement dans les années 70. L'exposition elle va explorer les motifs de prédilection des impressionnistes comme les bords de Seine, son activité fluviale, les campagnes d'Île-de-France, les jardins et la villégiature. Ce paysage n'est pas alors une nature vierge, mais une nature qui est vraiment transformée par l'homme et qui est inscrite dans un processus de modernité qui est extrêmement intéressant justement à pouvoir voir. Et donc, on peut véritablement voir qu'à partir des années 1980, les impressionnistes et particulièrement justement Monet se concentrent progressivement sur des paysages dits purs et sur les effets atmosphériques et lumineux qui sont toujours plus complexes. Et une projection audiovisuelle donc au sein de cette exposition permet d'explorer en beaucoup plus grand des détails, des œuvres vues dans les salles alentours, de présenter les nymphéas de Monet qu'on peut retrouver justement au musée de l'Orangerie à Paris et ainsi d'aborder véritablement la question de l'immersion au sein de la grandeur de la nature, de l'homme et du peintre dans le paysage. Cette exposition elle présente surtout l'évolution de l'art, du paysage, après justement l'impressionnisme. Et progressivement, l'observation de la nature, la célébration du paysage moderne, cède la place à diverses formes d'abstraction et à la quête d'une nature nouvelle qui va être réenchantée par de nouveaux peintres. Enfin, à la fin de cette exposition, on peut voir un chef-d'œuvre qui a été peint tardivement par Monet, qui est conservé au musée d'Orsay et qui s'appelle Sol pleureur, et qui est extrêmement beau, et une peinture d'Eugène Leroy justement. C'est une exposition, comme le rappelle justement la conservatrice et la directrice du MUBA de ce musée, c'est une exposition incontournable et une occasion inédite pour tout le monde de pouvoir de près de 60 chefs-d'œuvre impressionnistes qui nous plongent au cœur de l'histoire du paysage et qui nous permettent justement de pouvoir y aller et qui sont accessibles à tous et qui ne sont pas justement concentrés justement au sein du musée d'Orsay à Paris, qui ne sont pas accessibles pour tous. Et cette exposition, elle nous entraîne dans une véritable immersion au sein du paysage où les personnes peuvent faire l'expérience du temps qui passe et des lumières changeantes qui métamorphosent le paysage qui les entoure. Monet y décide de s'abandonner dans les années 80 au sujet moderne pour se concentrer principalement sur ces paysages de nature sauvage où le peintre nous fait part de sa subjectivité et de la transmission de ses émotions. Monet nous transmet son émerveillement devant les différentes beautés du monde et renforce volontairement les effets lumineux et colorés. Cette exposition met aussi en lumière et souligne l'importance pour les peintres impressionnistes des jardins qui est une composante essentielle de cette peinture et du paysage moderne. Ce jardin est souvent représenté comme un espace intime, protégé, un petit morceau de nature qui a été finalement arrangé par l'homme citadin et il y a justement ce besoin de retrouver l'espace intimiste du jardin qu'il était avant, où on pouvait s'y prélasser. Sur ces belles paroles, je ne peux que vous conseiller vivement d'aller et de vous rendre à cette exposition qui est particulièrement enrichissante et intéressante.
Merci beaucoup Alice pour cette super chronique. On enchaîne avec l'interview d'Emmanuel Rengoat et Pierre-Olivier Gaumin. Bonjour Emmanuel Rengoat, bonjour Pierre-Olivier Gaumin.
Bonjour.
Emmanuel, tu es maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Montpellier, spécialiste des conflits, des questions européennes et des mouvements sociaux. Et Pierre-Olivier, tu es réalisateur.
Absolument.
Vous venez de sortir le film documentaire Des goûts de lutte. Le film raconte l'après-Gilets jaunes. Quand a-t-il été tourné exactement ?
il a été tourné, et on a commencé à tourner en 2021, donc à l'anniversaire des 3 ans du mouvement, qui a commencé le 17 novembre 2018. Et nous, on a commencé à tourner en novembre 2021 jusqu'à 2023. On a tourné sur quasiment 2 ans et demi.
Et comment elle est née cette idée de faire un documentaire sur les Gilets jaunes ?
Elle est née du fait que, donc avant qu'on commence à tourner avec Pierre-Olivier, moi j'avais commencé une enquête de Sciences Po, quoi, plus classique, disons, de sociologie, avec plein de collègues partout en France et qui étaient mes étudiants sur les ronds-points pour savoir un peu qui étaient les Gilets jaunes qui étaient là, en m'intéressant surtout aux primo-contestataires, ceux qui n'étaient jamais sortis dans la rue avant, qui n'avaient jamais fait une manif, voilà, en disant de pourquoi c'est. Qui sont les gens qui sont là, pourquoi ils sont là, et puis qu'est-ce que. Et au fur et à mesure de l'enquête, on s'est dit que la question. Qu'est-ce que ça fait de participer à ça quand on ne l'a jamais fait ? Qu'est-ce que ça produit comme effet ? Du coup, ça transforme les gens. C'était une question intéressante. Et puis, moi, j'avais envie de produire aussi quelque chose qui soit pas, qui sorte des amphis, quoi, qui ne soit pas exclusivement destiné à un public académique. Et c'est en discutant avec Pierre-Olivier, quand on s'est rencontrés, on a commencé à faire germer ce type de film.
Donc justement, c'est la première fois que vous travaillez ensemble. Comment s'est déroulé le tournage à deux ?
Alors c'était un exercice intéressant parce que pour Emmanuel, c'était son premier film, tout simplement. Pour moi, j'en avais déjà fait, mais pas de cette étoffe-là, en tout cas pas de cette durée-là. Mmh. Et c'est 58 minutes, on visait un 52, finalement, au format final aujourd'hui, c'est 58 minutes. Et en gros, ça s'est passé assez naturellement, mais Emmanuel, qui n'avait pas le rythme d'écrire pour le cinéma, finalement, elle a appris à adapter son écriture, on va dire, de recherche scientifique vers une écriture plus cinématographique. Et moi, j'ai pas fait le parcours inverse, mais j'ai fait un parcours un peu plus raccourci. Moi, je faisais plutôt des films de science, un peu moins tournés documentaires, avec un sujet, en tout cas, peut-être un peu moins abouti. Et l'idée, c'était pour nous deux de se retrouver sur un discours commun et de regarder à quatre yeux la même chose pour essayer d'écrire le même film en même temps avec nos deux sensibilités différentes. Ce qu'on a réussi à faire en apprenant à tourner ensemble et à tourner, donc comme je vous ai dit, on a donc tourné quasiment 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans ensemble. Donc au fur et à mesure du tournage, on s'est aussi, Emmanuel est visé pour l'image et son regard s'est attiré. Et puis moi, j'ai travaillé ma sociologie de comptoir pour qu'elle le soit un peu moins. Et puis m'adapter à des discours qu'on voulait mettre en valeur à travers un film, tout en nuance et en image.
Et justement, vous avez fait un gros travail de recherche sociologique pour réaliser ce documentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est déroulé ce travail de recherche ?
En fait, on s'est mis très vite, on s'est mis au bout d'une semaine, c'est-à-dire que le mouvement a commencé le 17 novembre et une semaine après, on était sur les ronds-points. Alors, ça a commencé de manière assez inorganisée, parce que normalement, un travail de recherche, on cherche une problématique, on réfléchit entre collègues, on demande des financements, mais quand on est face à un mouvement social, c'est toujours imprévisible, donc on l'a noté comme on a pu au début. Et ça a commencé par une enquête par questionnaire. Moi, je suis allée avec mes étudiants, notamment mes étudiantes sur le rond-point, c'était assez intéressant comme rencontre. Et c'est un questionnaire pour savoir qui étaient les Gilets jaunes, en fait, qui étaient les gens qui étaient là, quel type de métier ils avaient, quel âge, quelle unicité de genre, de quel milieu ils venaient. Parce qu'il faut se rappeler qu'au tout début du mouvement, en novembre 2018, il y a beaucoup de discours qui circulaient, tout le monde était très surpris et personne ne savait trop comment qualifier le mouvement. Donc, les Gilets jaunes, on a dit qu'ils étaient fascistes, qu'ils étaient d'extrême gauche, d'extrême droite, qu'ils étaient antisémites. Voilà, il y avait beaucoup de discours qui circulaient. Donc, nous, ce qu'on pouvait apporter en tant que sociologue, c'était d'essayer d'objectiver un peu qui étaient ces Gilets jaunes et cette population. Et puis, donc ça, c'était. On allait avec le même questionnaire sur plein de ronds-points et de manifestations de France. Et puis après, avec des collègues du coin, plutôt aux alentours du coup de Montpellier, mais aussi avec des collègues d'ailleurs, on a fait des comparaisons avec des enquêtes plus qualitatives où là, on fonctionne par récit de vie et on se demande comment cet engagement il s'inscrit dans les parcours de vie des gens. Et donc là, ça veut dire qu'on va faire des entretiens assez longs dans la cuisine des Gilets jaunes. Et c'est aussi comme ça qu'est né le projet de film. C'est en nouant des liens de confiance et puis en prenant connaissance de la trajectoire des gens qui que moi j'ai trouvé et intéressante sociologiquement et qui maintenant m'a touchée aussi. Donc le film, c'était une manière d'entremêler les deux.
Donc vous avez également interviewé plusieurs personnes. Je pense à Ludivine Bantini, qui est historienne, ou encore à Héloïse Nez, qui est sociologue également. Comment vous avez sélectionné ces intervenants ?
Alors effectivement, on a même procédé à un tournage en deux temps. En fait, on a suivi nos personnages gilets jaunes du film pendant donc les trois ans là après le mouvement, et ensuite on a fait le choix de faire intervenir effectivement deux chercheuses et on les a tournées après le printemps 23. Donc on avait terminé le tournage de nos personnages et on a choisi de tourner nos chercheuses à ce moment-là. Alors pour plusieurs raisons, parce que ce sont des femmes sachantes et qu'elles portent une parole de recherche et que ce sont des femmes. Parce que effectivement, Bantini, c'est une historienne des mouvements sociaux et Louise Ney, elle a l'expertise d'avoir le recul et d'avoir fait un travail, en tout cas, des effets sur le mouvement des indignés. Donc il y avait des similitudes, en tout cas des traits communs ou des échos à dire en fait entre les gilets jaunes, ce mouvement des indignés et puis plus généralement. Les mouvements sociaux contemporains, et c'est ce que nous ont servi, c'est à quoi nous ont servi les chercheuses, c'est de reprendre un pas de recul et à nous parler des mouvements sociaux en général et pas que des gilets jaunes. C'était pour sortir du seul paradigme des gilets jaunes.
Question toute simple, comment on fait pour restituer 2 ans de tournage en une heure de film?
Ouais, c'est une super question. Comme moi, c'était un premier film, je ne peux pas poser tout de suite. Qui a contribué à ce qu'on ait beaucoup, beaucoup de rush. Moi, j'ai fait des interviews très longues. C'était aussi une manière d'accéder à des paroles qui ne sont pas toujours faciles d'accès ou faciles à produire. Alors, face aux gilets jaunes, on avait des gens qui pouvaient être très à l'aise ou très mal à l'aise devant la caméra. Donc, on a filmé beaucoup pour qu'ils aient le temps de s'habituer. Et donc, on avait 120 heures de rush. Donc, effectivement, il fallait transformer 2 ans de tournage et 120 heures de rush en 1 heure de film. Donc, on a écrit tout au long du tournage, mais on a aussi beaucoup écrit au montage. On a fait appel à un monteur professionnel qui s'appelle Léo Lockman, qui nous a beaucoup aidé aussi à écrire. Donc, écrire, ça veut dire trancher dans le vif, faire des choix de sujets, des choix de narration, des choix de définition de personnages. Hein, les gilets jaunes réels, on les a transformés en personnages pour appuyer certains points, notamment la variété des goûts qui restent après la lutte et la variété des trajectoires. Donc c'est un travail qu'on a beaucoup fait au montage, qui nous a demandé beaucoup de discussions, mais c'est comme ça qu'on a travaillé.
Et en parlant de montage, vous avez fait le choix de n'avoir aucune voix off, ce qui est assez rare pour un film documentaire. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Pour être tout à fait honnête, il y a une voix off qui intervient au tout début du film pour contextualiser. Oui. Notre enjeu, c'était effectivement de pas mettre de voix off pour plutôt montrer plutôt que dire. En fait, on voulait essayer de... par les images, par le son, par ce qu'on montre de nos personnages, on voulait inviter le spectateur à, avec subtilité et intelligence, à essayer de comprendre ce qu'on voulait montrer et ce qu'on voulait bien montrer des effets de ces mouvements. Et donc on a fait effectivement le parti pris de ne pas utiliser voix off dans la lignée de ces documentaires un peu comme Striptease. Je ne sais pas si vous voyez cette émission, une série de documentaires souvent format 26 minutes. Bah en fait, ça faisait partie d'une de nos références. C'était l'idée de, en tout cas, donner la parole et la puissance à nos personnages plutôt qu'à guider le spectateur vers quelque chose qu'on voudrait dire. Voilà.
Tu nous parlais de la scène d'introduction, où on voit un lac. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais je trouve qu'il y a un gros rapport à l'eau dans le documentaire, que ce soit avec cette scène d'introduction ou même un peu plus tard avec une fontaine.
Oui, alors c'était une manière d'accompagner de marier l'implicite et l'explicite, et donc d'accompagner la narration par la métaphore de l'eau, effectivement, qui mérite le film, on pourrait dire ça. Et comme l'expérience de la révolte va irriguer ensuite l'existence de nos différents personnages, et puis la métaphore de l'eau, outre que c'est beau, ça permettait aussi de dire les choses, voilà. Parfois le courant s'accélère, parfois il ralentit, ce qui correspond aussi aux différents moments de l'après. Il y a des moments où on est découragé, des moments où on retrouve de la combativité, des moments où il ne se passe pas grand-chose et où l'eau est plutôt calme, et puis des moments où ça se remet à tambouriner ou à ruisseler. comme les moments de l'élection présidentielle de 2022 ou le retour des mobilisations sociales au moment de la réforme des retraites de 2023. Donc c'est une métaphore qui me permettait de dire ça et puis de lier aussi nos personnages comme différents bras d'une même rivière.
Okay. Et Emmanuel, justement, là, tu nous parlais de l'élection présidentielle de 2022. Moi, je trouve qu'il y a une scène quand même assez marquante dans le documentaire. C'est quand on voit la réaction des Gilets jaunes le soir des résultats du second tour. Il y a un certain désespoir face au fait que la seule alternative à chaque fois, c'est l'extrême droite. C'est quelque chose d'autant plus actuel.
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant. On a fait une diffusion, la dernière projection débat qu'on a fait en salle, c'était le lendemain du résultat des européennes. Donc c'était le lundi, ça devait être le 10 juin. Et effectivement, le contexte actuel teinte beaucoup le regard sur le film, y compris notre regard sur le film, et c'est bien normal. Parce que effectivement, les Gilets jaunes qu'on a suivis, ils ont des rapports au vote très variés. Il y a des anciens abstentionnistes, des gens qui votaient beaucoup, des électeurs RN, des électeurs d'extrême gauche, des gens pour qui le vote n'est pas important. Et donc, on voit comment la lutte s'est fait bouger ou pas là-dessus. Et effectivement, le soir du deuxième tour de présidentiel, ils sont face à l'alternative. Il y a un collectif, en tout cas, qui est face à l'alternative Macron-Le Pen. Et c'est intéressant de voir comment ça les fait discuter, réussir ou pas à maintenir le collectif. Mais ce qui nous intéressait, nous aussi, dans ce film-là, c'est de suivre des trajectoires et de voir dans l'action politique, dans l'action citoyenne, ce qu'était la place du vote, la place de l'élection et la place de la mobilisation. Et ce que donne à voir le film, c'est aussi que ils arrivent à faire unité sur des thèmes communs. Et notamment les questions sociales et la question des inégalités dans le temps de la mobilisation, alors que le moment de l'élection présidentielle est plus clivant parce qu'effectivement il faut choisir un camp et que c'est plus le mouvement social qui définit les questions qui vont faire débat. Donc la question de l'immigration, la question du choix du vote RN ou Macron revient. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi assez juste aujourd'hui. Je pense que le climat politique et l'offre du paysage politique ne correspondent pas complètement aux attentes de la population. Pour le dire peut-être plus clairement sur ce qui se passe aujourd'hui, il y a un racisme qui est important dans la société française. Mais je pense que ce n'est pas la question migratoire qui est la plus importante aujourd'hui pour les gens qui votent et dans leur priorité de vie. Mais ceci dit, c'est très important dans les discours politiques. Mais je pense que la question sociale reste la question principale. En tout cas, ce que montraient les Gilets jaunes.
On retrouve également beaucoup de musique dans le documentaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce que c'est une compo originale? De qui? Comment vous avez choisi?
Alors, Emmanuel nous parlait à l'instant là, du monteur Léo. C'est l'occasion de rappeler qu'un film, nous on l'a réalisé à deux, donc on avait la responsabilité du film. Mais on l'a évidemment fait en équipe et avec plein de gens, notamment un compositeur de musique qui s'appelle Emilio Di Bortoli, qui est très bon musicien, saxophoniste à la base, et qui nous a composé en fait la musique alors que on avait déjà commencé le montage. En fait, l'idée c'était d'appuyer le fil narratif et puis de faire intervenir la musique en tout cas en liant et en faisant une sorte de mixture musicale qui nous amène vers les réflexions, vers les c'était un facilitateur pour le propos. Et donc en fait, on avait une première version de montage qui n'était pas du tout celle du film actuel terminé. C'était une première version un peu plus longue, avec des bouts pas forcément collés. Et en fait, à partir de ce truc-là, il a composé des virgules, il a fait des passages d'une séquence à une autre, il a composé le thème de fin, etc. Il nous a apporté énormément d'inspiration, énormément de respiration. Il a vraiment donné une autre dimension au film.
Donc pour ce premier film documentaire, vous avez choisi de travailler avec les films d'ici Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé à travailler avec eux?
Oui, alors on cherchait un producteur en fait tout simplement, et les films d'ici Méditerranée, on nous les a conseillés. En fait, moi, je me suis adressée à Occitanie Film, qui est le bras de la région Occitanie qui s'occupe du cinéma, et ils nous ont donné une liste de producteurs que notre thématique pouvait intéresser. Et il se trouve que, dans une autre partie de l'île, moi, j'ai contribué à monter une librairie coopérative à Montpellier, dans laquelle il y avait aussi, à l'époque, le directeur des films du cinéma. Donc, je l'avais croisé, on se connaissait pas, mais donc voilà, je lui ai envoyé le projet. Et on a fait des allers-retours de lecture et de relecture. Ça a duré assez longtemps, hein. Ça a duré plusieurs mois, voire peut-être une bonne année, avant qu'on s'arrête sur un projet d'écriture de film et puis qu'on se mette à travailler ensemble. Donc ils nous ont accompagnés un peu dans l'écriture et puis un peu dans la recherche de financement. Et aujourd'hui, ils nous accompagnent aussi dans la diffusion. Alors, vous pouvez dire quand même clairement, c'est la diffusion, elle repose sur nos épaules. On n'a pas de diffuseur télé, on n'a pas de distributeur cinéma. Donc, elle repose sur les personnes qui nous aident à la production. Et puis, tous les deux, on sort notre petit téléphone et puis on appelle les salles. Et c'est comme ça qu'on fait les projections dans diverses salles de France, avec aussi des appuis associatifs. Le film est soutenu par la Ligue des droits de l'homme, par ATTAC, par la Roue Politis. Donc on fait beaucoup de partenariats associatifs, en fait, à chaque fois qu'on diffuse, et donc à Amiens, ce sera avec l'association Vaudoulou. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a briqué Films ouvre ses portes et qu'on peut venir porter le film. Donc c'est aussi beaucoup sur les associations qui s'appuient, et c'est super, parce que ça permet aussi d'avoir des débats qui sont super intéressants après le film.
Et justement, comment se passe le début de votre tournée de diffusion-débat ?
Ah ben, ça se passe très bien. On a commencé donc le 30 avril à Montpellier, au cinéma Le Diagonal. On a fait notre première, en fait, à cette date-là. Et ensuite, c'est enchaîné, comme dit Emmanuel, on a appelé, on n'a pas de distributeur. Donc, avec la fin, on a appelé les cinémas et on s'est retrouvés. On a essayé de construire une sorte de tournée. Le film, il est... pour ceux qui le verront, il est assez hybride, donc on n'a pas encore vraiment installé notre place dans les festivals et on n'a pas de distributeur, donc on est vraiment dans une branche très indépendante. Et donc voilà, en appelant les cinémas au fur et à mesure, on a réussi à construire une tournée et à le montrer en France, donc maintenant presque une quinzaine de dates, dont Amiens et Paris font partie, donc Paris le 4 juillet, Amiens le 5 juillet. Et pour nous, avec l'été, etc., c'est presque la fin d'une première partie de tournée. Et à la rentrée, on reprendra des dates. Et globalement, les débats donc, sont toujours passionnants. Ils sont très adaptés avec le public. C'est-à-dire, le public venant plutôt du documentaire nous questionne sur le côté le dispositif filmique et puis la narration, comment on a trouvé les personnages, etc. Et puis, on a des publics plus militants dans des cadres plus associatifs qui nous permettent, nous aussi, de discuter sur des parties un peu plus militantes du film et sur des discours un peu plus politiques, finalement.
Dernière petite question. Des goûts de lutte, c'est un double jeu de mots. Qui a eu l'idée entre vous deux?
Alors, on discute la paternité ou la maternité. Mais c'est en discutant ensemble qu'on a validé ce titre-là. On réfléchissait au titre, on se faisait des blagues autour de possibilités de titres. Et voilà, quand on a sorti celui-là, ça nous a retenu l'oreille, ça nous a parlé. Parce qu'effectivement, ça permettait de jouer à la fois sur les goûts et les dégoûts, à la fois sur la lutte, sur le luxe. Voilà, c'était proche de ce qui se passe dans le film. Donc c'est comme ça qu'on l'a gardé.
Emmanuel Rengoat, Pierre-Olivier Gaumin, merci.
Merci à toi.
C'était l'interview d'Emmanuel Rengoat et Pierre-Olivier Gaumin. Pour rappel, vous pourrez découvrir leur film documentaire « Des goûts de lutte » lors d'une projection débat qui se tiendra le 5 juillet prochain à 19h à la briqueterie à Amiens. Cette projection est organisée par l'association Zébulon. N'oubliez pas, samedi à partir de 10h, la France sera en direct sur notre antenne dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement et de la libération. C'est déjà la fin de votre émission, merci pour votre écoute, je vous propose maintenant d'écouter Overpromise du groupe Delta. À demain. Well, you know I'm not supposed to. Guess what is not said. Godlessly a chick who looks big since standing when my denial needs a bit more. I just remember when he left me torn. We may stay together for too long, but our love wasn't that strong. And you know what, even if I'm wrong, nothing means the way I'm amused by making you so confused. Cause I'm just pretending that you leave. I've been missing that you haven't fallen off. Anymore since you tried your best, supposedly.
Now seeing how you act with me, it makes me lose my senses. Why you describe them like the host? I don't know they weren't those. Whoever did it like I do. But it's impossible to feel indifferent. I cannot be ignorant of the unfinished love that you try to feel. Took me a while to recall.